quand l'État a su et a laissé faire.
Non, non, mais c'est un scandale.
C'est scandaleux.
Non, mais c'est un scandale.
C'est un scandale.
Quelle indignité.
Imaginez qu'on vous soigne, qu'on vous transfuse un produit censé vous maintenir en vie, et que ce produit, on le sache déjà contaminé par un virus mortel. Imaginez maintenant que ce qu'il savait est laissé faire, par calcul, par lenteur, par intérêt. C'est l'affaire du sang contaminé, l'un des scandales sanitaires les plus graves de l'histoire de France. Nous sommes en 1984-85. Une nouvelle maladie terrifie le monde, le sida. On comprend peu à peu qu'elle se transmet par le sang. Or, des milliers de personnes dépendent pour vivre de produits sanguins, les hémophiles. Fin 1984, une découverte change tout. Chauffer les extraits de plasma permet d'inactiver le virus. La sélection existe donc. Mais en France, les capacités de traitement sont insuffisantes. Mais la France refuse d'importer du sang étranger. Résultat, des produits non chauffés, donc partiellement contaminés, continuent d'être distribués. Le plus glaçant, ce sont les notes internes. Le 8 mai 1985, le secrétaire d'État à la Santé et son conseiller adoptent une position écrite sur le dépistage des donneurs. Ils notent que le dépistage systématique aurait, selon eux, plus d'inconvénients que d'avantages d'un point de vue sanitaire, tout en reconnaissant un risque politique majeur de ne pas l'instaurer. Et ils ajoutent qu'il faut une stratégie qui préserverait les intérêts de l'industrie nationale. Traduction, on pèle le coup, l'industrie, la politique. Mais pendant ce temps, le virus circule. Quand le Premier ministre annonce enfin le dépistage obligatoire des donneurs à partir du 1er août 1985, il est déjà trop tard. L'essentiel des contaminations a déjà eu lieu et l'arrêté ne concerne pas les stocks déjà constitués. Les chiffres donnent le vertige. Selon l'Association française des hémophiles, environ 1350 hémophiles ont été contaminés et près de 1000 en sont morts. D'autres estimations parlent de milliers de personnes contaminées au total, en comptant les transfusions classiques. Le scandale éclate le 25 avril 1991, quand la journaliste Anne-Marie Castoret révèle, preuve à l'appui, que le Centre national de transfusion sanguine a sciemment distribué des produits contaminés. La justice se met en marche. En 1992, l'ancien directeur du centre de transfusion et un autre responsable sont condamnés à 4 ans de prison, dans 2 fermes. Mais le regard se tourne vers les politiques. 3 noms. L'ancien Premier ministre, l'ancienne ministre des Affaires sociales et l'ancien secrétaire d'État à la Santé. En novembre 1991, l'ex-ministre des Affaires sociales déclare à la télévision se sentir profondément responsable, mais ne pas se sentir coupable. Les médias synthétisant ces mots en une formule dévastatrice restée dans toutes les mémoires, responsable, mais pas coupable. En 1999, les 3 responsables politiques sont jugés, non pas devant un tribunal ordinaire, mais devant la Cour de justice de la République, une juridiction d'exception réservée aux ministres. Le verdict tombe le 9 mars 1999. Les 2 principaux ministres sont relaxés. Le 3e, l'ancien secrétaire d'État à la Santé, est le seul condamné. Acquitté quand même de 5 des 7 chefs, il est reconnu coupable pour les 2 autres, dont un homicide involontaire, celui d'un enfant contaminé. Mais la Cour le dispense de peine, estimant qu'il n'avait pas bénéficié de la présomption d'innocence pendant l'instruction. Concrètement, personne parmi les responsables politiques n'ira en prison. Pour les victimes et leurs familles, le jugement est une gifle. Il laisse une question suspendue qui n'a jamais vraiment trouvé de réponse. Quand l'État sait et laisse faire, qui est coupable? À bientôt pour un nouveau scandale.
Non, non, mais c'est un scandale.
C'est scandaleux.
Non, mais c'est un scandale.
C'est un scandale.
Quelle indignité.